C'est la mer ?
Non, c'est ma belle-mère.
La belle parentalité, c'est une drôle d'aventure. La vôtre peut-être. Et si on en parlait un peu ? Bonjour à tous, je suis Clémence Bernard et pour vous, j'ai créé le podcast qui vous aide à trouver des réponses et des clés sur la belle parentalité. Un concept audio qui donne la voix aux personnes ayant elles-mêmes fait l'apprentissage de cette parenté d'un autre genre ou à celles et ceux qui ont un avis, conseils, tips à nous transmettre. Alors, si vous êtes parent, joli parent, enfant, bel enfant, beau grand-parent, acteur ou témoin d'une famille recomposée, ou toute personne désireuse d'écouter différentes expériences sur le sujet, bienvenue dans la communauté de la belle parentalité et piochez ce qui vous plaît.
Tu me saoules, sors de ma chambre. C'est ma chambre.
La belle parentalité, c'est avant tout une histoire collective de construction. Après avoir rencontré sa nouvelle famille, trouvé une forme de place, il faut apprendre ensemble à faire famille et reconstruire de nouvelles fondations sur quelques parpaings déjà bien existants. Certaines séparations se déroulent bien, heureusement, mais majoritairement, un divorce reste conflictuel et les enfants en subissent les conséquences. Dans mon imaginaire, si je dois m'illustrer la famille recomposée, il s'agirait d'une belle maison d'archi, une grande extension moderne d'une longère en ruine avec pierre apparente, mais bien abîmée, avec beaucoup de charme et d'histoire, qui a été détruite par les aléas de la vie. Il va donc falloir reconstruire de nouvelles fondations sur la base de cette jolie longère fatiguée et l'agrandir avec de solides matériaux pour pouvoir la sublimer et l'embellir. Et dans cette belle maison d'archi, il y aurait de quoi abriter une grande famille avec des inconnus familiers et un cap partagé. Pour ne pas perturber davantage mes beaux enfants qui venaient de subir le divorce de leurs parents, nous avons décidé de rester vivre dans le village où ils avaient grandi et où mon conjoint avait construit 17 années de vie commune avec son ex-femme. C'était vraiment étrange pour moi de bâtir notre famille là où leur couple avait finalement échoué. De vivre, évoluer, éduquer des enfants dans leur environnement à eux, avec leurs habitudes, connaissances, j'avais la sensation de prendre la vie d'une autre personne. Je ressentais de la culpabilité et de la gêne, comme si j'usurpais une identité. Et en ressentant cela, je m'auto-retirais toute légitimité à exister dans leur vie. Je perdais confiance et avais du mal à croire en nous. J'ai dû, au fil des ans, travailler sur ce sentiment de culpabilité qui n'avait pas de sens et qui pouvait, à terme, pourrir nos relations intrafamiliales. On a d'abord pensé à l'épanouissement des enfants qui était primordial, car sans cela, il nous aurait été impossible de construire quoi que ce soit de pérenne. Puis, nous avons acheté notre maison commune pour fonder collectivement notre nouvelle histoire dans notre lieu à nous. Dans cet épisode, j'ai cherché à comprendre comment faire famille, créer un lien, éviter les conflits de loyauté aux enfants, surmonter les crises, rebâtir une famille en comprenant les échecs passés. Au sein de notre propre famille, il a fallu définir un cadre, mettre à distance une certaine toxicité issue de la fin du premier couple de mon conjoint, trouver une organisation familiale commune avec des fenêtres de communication, des plaisirs et des respirations. Pour y parvenir, nous pensions avoir tout tenté. Conseils de famille, psychologue, groupe WhatsApp, agendas familiaux, jeux de société, vacances, communication positive, bienveillante, non violente, qui devenait souvent hyper agressive et vachement moins bienveillante. Et oui, les tragédies grecques dans la famille recomposée. Mes beaux enfants ont aussi certainement eu beaucoup de mal à comprendre où se situer, auprès de qui ils devaient rester loyaux, tout en évitant les conflits dans chaque maison. Eux aussi ont dû jouer aux enfants aimants pour faire plaisir à des parents parfois paumés, décevants, défaillants, dans l'erreur. Pour leur éviter des conflits de loyauté, on s'abstenait de tout commentaire sur une situation qui aurait pu leur faire ressentir de la culpabilité. On se disait que c'était nous les adultes et qu'ils devaient rester à leur place d'enfant au maximum, qu'on pouvait subir et encaisser les conflits, ce n'était pas leur rôle. Mais nous n'y sommes pas toujours parvenus. On s'est tous quelquefois un peu perdus, sentis déboussolés, sans cap, sans inspiration, pour à chaque fois, finalement, communiquer, mieux nous retrouver, apprendre à nous reconnecter et enfin, réussir à faire famille, malgré des fondations fragiles et en surmontant les nombreuses crises inhérentes à la famille recomposée. Et pour faire rempart à ces crises, notre beau couple, au sens de belle parentalité, a dû rester solide, savoir digérer ses histoires passées et garder le cap commun d'éducation comme de projets familiaux. L'essentiel étant de rester en accord, surtout devant les enfants, et essayer d'être équitable avec chacun d'entre eux en termes de soins, de temps, d'attention et d'amour. Encore et toujours faire de son mieux. D'une manière générale, nous avons pensé à leur équilibre et épanouissement avant le nôtre, au risque de parfois nous oublier un peu. En fait, un couple de recomposants, c'est une union d'un deuxième, voire troisième type, qui se construit sur la fin d'un autre, avec les traumas accumulés de part et d'autre, une tambouille dont il faut réussir à se dépatouiller pour écrire un nouveau chapitre, et évidemment pas d'une page blanche immaculée. Il faut beaucoup d'attachement et de respect à la base pour envisager un tel chantier, en restant croyant et résilient, en évitant au max de se laisser envahir par l'angoisse de répéter les mêmes erreurs que le couple séparé. Puis il y a aussi l'aspect juridique de l'autorité parentale, du statut de beaux-parents, mariage ou PACS, qui peut venir impacter la recomposition, mais j'aborderai cela dans un prochain épisode dédié. Dans cet épisode, chacun des aventuriers de la belle parentalité va nous confier ses petites clés, les choses qu'ils ont mis en place pour se recomposer, passer les crises et réussir à faire famille. Alors c'est parti, voici ma quatrième question pour un quatrième épisode. Comment construire sa famille recomposée ? Catherine Audibert.
La recomposition, c'est la construction d'une famille, mais c'est aussi la réparation des dégâts qui ont pu être causés ultérieurement par la séparation du couple parental précédent. C'est pour ça qu'il y a aussi des difficultés, c'est-à-dire que la recomposition, elle se fait aussi sur des douleurs, sur des fragilités, sur des blessures. Voilà, c'est pas parce que un jour on se met ensemble, un homme et une femme, ou un homme et un homme, une femme et une femme, en étant heureux et amoureux, que ce qui appartient au passé est déjà cicatrisé pour tout le monde. Ça ne l'est pas et il faut en tenir compte. Donc il y a construction et reconstruction, effectivement, construction d'une famille et reconstruction finalement de soi-même, enfin, en tous les cas, des dégâts causés par le précédent échec familial. Il peut arriver que l'ex-parent ait une certaine toxicité vis-à-vis de la recomposition de l'ex-conjoint, en infiltrant la famille, en se servant des enfants pour infiltrer la famille et finalement essayer de détruire quelque chose qui n'était pas envisageable, en tous les cas, qui est source de souffrance. C'est vrai que c'est assez compliqué du fait de la nécessité que les enfants gardent un lien avec leur père et avec leur mère, de pouvoir tenir l'ex-conjoint à distance, mais pourtant, il faut quand même pouvoir le faire. En tous les cas, il faut être assez clair sur le cadre qu'on donne à tout ça, pour que justement, il n'y ait pas trop de parasitage de cette éventuelle toxicité de l'ex-parent dans la nouvelle construction familiale. Pour ça, peut-être que parfois, il faut faire appel à une aide extérieure, soit un médiateur, soit un juge aux affaires familiales pour recadrer tout ça et effectivement délimiter la façon dont on exerce son rôle parental dans ces nouvelles circonstances. Alors, je ne suis pas juriste, c'est pas mon métier, mais ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a toujours pas véritablement de statut juridique du beau-parent en France, en tous les cas, puisqu'il y en a dans d'autres pays. Donc, finalement, les droits et devoirs du beau-parent ne sont toujours pas clairement délimités. Et cette carence juridique pose des problèmes quand même dans le quotidien des beaux-parents. C'est un souci supplémentaire, c'est une complication, une complexité supplémentaire qui n'aide pas les familles recomposantes, alors que justement, elles ont quand même besoin d'aide et de simplification. Dans la famille recomposée, on perçoit quand même beaucoup de culpabilité de part et d'autre, mais particulièrement dans la situation où le père recompose, il y a une culpabilité à avoir échoué le couple précédent et à imposer à leurs enfants une nouvelle figure. Cette culpabilité engendre le fait qu'ils ne donnent pas une place d'adulte à leur nouvelle compagne et il ne donne pas non plus non seulement la place, mais l'autorité qui peut aller avec. C'est-à-dire justement le fait que cette personne adulte, même si elle n'est pas la mère de ses enfants, puisse avoir un rôle auprès de ses enfants et un rôle d'adulte quand même. Il peut y avoir des confusions de rôle du fait de cette culpabilité. Je pense que quand on arrive à la déloger, à en prendre conscience et à la dépasser, là, il est possible que la famille retrouve une configuration qui est plus saine, c'est-à-dire les adultes qui ont un rôle d'adulte, même quand ils ne sont pas les parents biologiques, ils ont un rôle d'adulte à jouer dans cette nouvelle famille. Et les enfants se plient aux règles de la nouvelle famille, comme dans toutes les autres familles. Ça concerne la famille recomposante dans les conséquences que ça peut avoir, mais c'est vrai que le fait de n'avoir pas élaboré ce qui a causé la rupture du premier couple est de toute façon une entrave à la recomposition du second couple et peut-être de la famille d'une manière plus générale. On peut répéter les mêmes choses d'un couple à l'autre, on peut répéter les mêmes choses. Si on n'a pas compris ce qui n'avait pas marché, pourquoi ça avait échoué, on peut répéter de manière inconsciente exactement les mêmes choses. Donc je pense que dans toute recomposition, il y a une élaboration nécessaire de ce qui a pu aboutir à la séparation du couple parental.
Fanny, fonder une famille, ça n'avait jamais été un projet de vie pour moi. Et même, c'était plutôt quelque chose qui me paraissait pas très intéressant à faire. Donc, cette famille m'est tombée dessus et je crois que je n'ai jamais eu de projet, de programme particulier vis-à-vis de ça et que j'ai mis beaucoup de temps avant de me dire qu'on allait fonder une famille, qu'on allait constituer une famille. C'est compliqué, hein. Mais je n'ai pas eu la conscience d'être une belle-mère avant de le devenir. Donc je ne me suis pas posé de questions sur ça. Les enfants étaient là, l'amour était là. C'était quand même un point de départ très important. L'amour pour Laurent aussi. Laurent était très père, donc voilà, il se conduisait comme un père avec ses enfants. Et moi, étant donné qu'on avait aussi une différence d'âge qui n'était pas énorme, finalement j'ai la même différence d'âge avec Jules qu'avec Laurent. Donc c'était une situation un peu étonnante. Eh bien, j'étais une sorte d'adulte, parce que ça, par contre, j'avais très conscience d'être une adulte. Je n'étais pas la grande sœur, mais j'étais une adulte qui aimait leur père et qui était là. Qui était là pour donner de l'amour, pour prendre soin, faire attention. Ça a été très important pour moi de faire attention à ce qu'ils se sentent bien, que voilà, chacun, même physiquement, voilà, les petits bobos. Mais pendant très longtemps, je ne me suis pas vécue comme belle-mère. Et d'ailleurs, je n'aimais pas ce terme. Et les filles m'ont appelée Fanny, Jules m'a appelée Fanny. Donc voilà, pendant longtemps, c'était presque un non-dit, en fait, juste une situation qui n'avait pas de mots. Et puis, petit à petit, ça l'est devenu, et certainement la naissance de Léo, donc le fils que nous avons eu, Laurent et moi, un an et demi après notre rencontre, a été le moment où la situation de belle famille, belle parentalité s'est vraiment installée clairement. Alors, je dirais pas transparence, parce que je trouve aussi important que tout ne soit pas dit. Ça, je l'ai appris aussi avec le temps, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut suspendre un petit peu la parole, ne pas dire tout de suite ce qu'on ressent, ce qu'on vit, parce que la belle parentalité, c'est quand même une expérience extrêmement forte, en émotion, très presque violente, parce que on est confronté tout simplement à des étrangers, à des étrangers qui vivent sous notre toit, qui doivent nous être familiers et qui pourtant ne le sont pas. Donc, il y a toujours ces ambivalences de sentiments, à la fois de l'amour, de l'incompréhension, parfois de la colère, etc. Et donc, il y a des moments où il faut ne pas dire sur le coup les choses, mais attendre que ce soit apaisé et puis en reparler derrière, peut-être d'abord avec son conjoint et puis ensuite avec les enfants. Donc, transparence, non, je dirais plutôt, par contre, clarté sur les aspects fondamentaux. Voilà, quand on sait que c'est parti pour la vie, il vaut mieux le dire. Quand on sait qu'on va avoir un enfant, les enfants, c'est les premiers auxquels on a annoncé qu'on attendait Léo. On l'a annoncé à Jules, Marie et Lisou avant de l'annoncer à mes parents. Par exemple, ceux de Laurent étaient déjà décédés, donc la question se posait pas. Mais même avant de l'annoncer à mes sœurs, avec qui je suis très proche. Donc c'est plus sur des choses comme ça, c'est vrai que c'est très important de se dire les choses très importantes de la vie. Mais encore une fois, sur le quotidien, il y a des moments où il faut dire et puis des moments où il faut savoir se taire et attendre un petit peu que la pression retombe. Je sais pas si je pourrais donner des conseils. Moi, déjà, c'était une situation très particulière puisque Léo a 10 ans d'écart avec Lise, qui est la plus petite. Ensuite, du coup, 14 avec Marie et 20 avec Jules. Donc, ils étaient déjà tous un peu grands. Et finalement, Léo, ça a été un peu une poupée pour Lise, une poupée aussi pour Marie, et puis pour Jules, alors une espèce d'étrange petit frère, vraiment tout petit, un peu lointain. Donc, il n'y a pas eu, par exemple, la jalousie que peuvent avoir des enfants très proches. J'ai pas eu besoin aussi de partager mon temps en termes de soins avec d'autres petits. Ça peut être très prenant de s'occuper de petits enfants. Donc Lise, elle s'occupait toute seule, elle se couchait toute seule le soir. Enfin, elle avait son autonomie. Donc j'ai pas eu du tout tous ces problèmes qui pourraient être évoqués par d'autres et sur lesquels, évidemment, à mon avis, ça doit être intéressant d'avoir des conseils. Ce qui est sûr, c'est que on avait déjà construit une relation suffisamment forte avec les enfants de Laurent pour que je puisse continuer d'avoir cette relation avec eux tout en m'investissant à 200% avec Léo. Donc, il y avait quelque chose, un socle suffisamment solide. Et Léo est arrivé un an et demi après que je les ai rencontrés. Voilà, ça paraît peut-être rapide, mais finalement, on avait déjà eu le temps de construire quelque chose de solide. Et puis, une fois qu'il a été là, et ben, il y a eu une fratrie, tout simplement. Alors, l'erreur peut-être que j'ai faite et que d'autres font sans doute, c'est de me dire, il faut surtout que Léo considère ses demi-frères et sœurs comme des frères et sœurs. Donc, j'ai tout le temps dit, ton frère, ta sœur, tes sœurs, gnagnagna. Et je me suis rendu compte, mais alors ça, assez récemment, que c'était peut-être pas forcément une bonne idée. Parce que pour Léo, en fait, c'est plus confusant qu'autre chose. Il y a plein de moments qu'il vit tout seul avec Laurent et moi, où il est fils unique. Et puis, plus ses sœurs et son frère ont grandi, moins il les a vus. Plus c'était à l'occasion de week-end ou de vacances. Et plus ça faisait bizarre de dire tes frères et sœurs, non, t'es dans une fratrie. Non, autant lui dire les choses clairement. Et d'ailleurs, depuis que je l'ai fait, finalement, j'ai l'impression que ça lui va beaucoup mieux. Tu as des demi-frères et sœurs avec qui tu as des relations les plus chouettes possibles, les plus nombreuses possibles, mais ce sont tes demi-frères et sœurs. Et je pense que les choses sont plus claires comme ça. Et alors, ça serait intéressant de demander aux enfants, je crois que j'aurais jamais demandé comment eux considéraient Léo. Je pense qu'au début, je me souviens des filles qui disaient beaucoup « mon petit frère ». Mais ça, c'est aussi de leur âge. Mais je pense qu'assez naturellement, très vite, il y a eu quand même leur fratrie qui est restée d'ailleurs. Et c'est une fratrie très soudée, les trois. Jules, Marie et Lise, c'est vraiment un groupe très soudé. Et puis Léo qui est à côté. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'aime pas, il l'adore, ils s'adorent tous, mais à côté. Oui, alors c'est sûr que ça aussi, c'est une chance. Laurent a beaucoup d'humour, ses enfants ont beaucoup d'humour, ils en avaient déjà beaucoup au moment où je les ai rencontrés, et beaucoup d'autodérision. C'était une sorte de sport familial déjà, de s'envoyer des vannes, et ça n'a fait que s'accentuer évidemment avec l'âge. Et moi aussi, en fait, j'aime bien envoyer des piques, m'en prendre. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de situations qui ont pu être résolues par l'humour, en s'envoyant un petit boc à la figure, ou en disant les choses d'une manière très cash, mais avec un sourire ou une formule un peu drôle. Et c'est vrai que ça aide énormément. Alors par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'en vieillissant, on est passé à l'humour écrit sur le groupe WhatsApp familial. Alors là, je trouve que ça marche plutôt moins bien. Mais alors, c'est peut-être moi qui suis un peu has-been et qui ai plus de mal avec cette forme-là. Mais l'humour comme ça, sans qu'on voit les gens, sans qu'on ait le regard ou le petit sourire qui fait que ça passe, où tout le monde est dans la boucle. Moi, je sais que de nombreuses fois, là, j'ai des situations à l'esprit où j'ai été un petit peu gênée ou dérangée par des discussions que je trouvais pas drôles, où je me sentais un peu exclue, un peu à côté de la plaque. Pour le jeu, les temps de loisirs et tout ça, il y a eu quand même une première période, et c'était plutôt avant la naissance de Léo, où moi, j'étais contente d'avoir des, notamment avec les filles, des filles petites avec qui partager les jeux de mon enfance. Et donc, j'ai vachement, je me souviens, on jouait dans mon sac Gémi quand on faisait des longs trajets en voiture, où j'avais des tas de jeux, des rébus, des trucs comme ça que j'adorais faire quand j'étais petite fille et que j'ai partagé avec elles. Et ça, ça nous a beaucoup soudés et je me forçais pas du tout. J'avais très envie de le faire, ça. Mais étonnamment, quand Léo est né, c'est vrai qu'après, j'ai eu moins envie. Et en fait, je me suis pas forcée à continuer ces rituels. Si j'en avais pas envie, je les faisais pas. Et puis voilà. Et alors, en grandissant, les enfants sont devenus des grands joueurs de jeux de société. Alors, c'est un truc de génération. Je pense, Jules notamment, il est tout le temps un nouveau jeu de société. Bon, les filles aussi. Et moi, c'est moi, ma cam, et ben, je leur dis, non, là, je vais pas jouer, et quand j'en ai envie, je le fais. Mais, je suis pas le géo. J'ai jamais été le géo, d'ailleurs, des enfants, c'est pas mon truc. Alors, s'il y a bien un truc sur lequel il ne faut pas se forcer, c'est ça, parce que sinon, on se fait ronger sa journée, en fait, et je pense que ça peut créer beaucoup de rancœur et, voilà, et générer derrière des colères ou des grosses disputes. Sinon, les voyages, en termes de loisirs qui fédèrent, les voyages, je pense que c'est vraiment essentiel, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais en fait, ça déplace le voyage. Et comme la belle parentalité, c'est une situation où on est tous, on cherche tous sa place, le fait d'être déplacé, bah, c'est peut-être le meilleur moyen pour la retrouver, quoi. Je pense que le voyage, c'est extraordinaire pour qu'on soit tous sur un terrain étranger et que sur ce terrain étranger, on puisse chacun redevenir familier à sa place. Mais bon, il faut pouvoir se l'offrir parce qu'en famille, voilà, famille recomposée, on est souvent très nombreux, donc il faut trouver des solutions. Évidemment, une famille recomposée, ça se crée sur la base d'une famille qui s'est décomposée, d'une famille qui s'est déchirée avec un couple qui n'a pas fonctionné. Et c'était le cas évidemment pour le couple de Laurent avec son ex-femme. Et effectivement, Laurent n'était pas le même mari avec son ex-femme qu'il a été avec moi. Les enfants découvrant ça quand elles étaient petites. Alors, j'ai pas eu de discussion sur ça avec Jules, qui était plus pudique. Mais avec les filles, elles me disaient, mais tu sais, papa, méfie-toi, hein, il peut aller voir ailleurs. Ou il y a des moments où il sera pas aussi gentil. Enfin, voilà, des mises en garde comme ça. Et je pense que j'ai pas prêté assez attention à ce qu'elle me disait parce que c'était pas tant une mise en garde pour moi. Moi, j'avais confiance en Laurent. Je savais qu'on était en train de construire quelque chose de différent parce que, voilà, il avait pas le même âge, que j'étais pas la même femme. En fait, elles avaient besoin d'être entendues sur leur vie à elles, ce qu'elles avaient vécu, ce qu'avait été leur famille avant. Et avec le recul, je me dis, j'aurais dû leur dire, mais raconte-moi comment c'était, etc., que j'aurais pu prêter plus attention à ce qu'elle me disait au lieu de dire mais tu vas voir, c'est un autre homme, tout va bien se passer, maintenant la famille est merveilleuse et c'est magnifique, voilà, toujours ce délire comme ça de perfection. Si j'avais peut-être plus écouté, on aurait construit un certain nombre de choses sur des bases peut-être plus solides, avec plus de confiance. Et finalement, il y a des choses qui ont surgi assez récemment qui étaient liées au fait que j'avais sans doute pas pris le temps de bien écouter leur histoire, d'y prêter attention.
Thomas.
Il faut donner du temps, ouais. Il faut donner de son temps et expliquer le temps aussi aux enfants, évidemment. Et puis le vivre, passer du temps avec eux et faire des choses ensemble, voilà, c'est ça. Ça passe par le repas, les activités de la maison. C'est pas juste des paillettes, de l'apparence, c'est l'humain, quoi, j'ai envie de dire. C'est une réponse, une question, une réponse, des commentaires, l'expérience, voilà, des discussions, hein, c'est tout ça. C'est une richesse, quoi. C'est de pouvoir montrer le chemin à des enfants qu'on n'aurait peut-être pas rencontrés, d'ailleurs. C'est un peu ça qui est dingue, quoi. Donc voilà, c'est ça, c'est un peu tout ça. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que vraiment, ils m'ont connu petit, quoi. C'est hyper important. Alors que Tamara, elle a connu mon gamin, elle avait 12 ans. Donc c'est déjà plus raide, quoi, hein, quand même, à 12 ans. Mon fils aime beaucoup sa mère. Voilà. Donc forcément, le rôle pour Tamara était très, très dur. Près des enfants de Tamara, il y a une scission avec le grand et son père. Mais j'ai jamais prétendu vouloir le remplacer. Au contraire, hein, moi, j'estime que c'est important d'avoir son père et de se construire avec. C'est tout à fait normal. Il y a forcément une partie intime, surtout chez des garçons par rapport à leur mère, qui leur appartient. Donc moi, je suis jamais intervenu, on va dire, dans un cadre émotionnel particulier qui leur correspond. Après, dans le cas de mon fils, j'ai remplacé sa maman beaucoup sur des tas de points. Après, j'ai une construction autour de mon gamin avec ma mère aussi, hein, parce que pendant 10 ans, je suis avec Tamara depuis 10 ans, Lucas a 20 ans, donc avant, il s'est passé quand même 10 ans, et ma mère m'a beaucoup aidé, donc c'est un peu une construction particulière aussi. Voilà, tout le monde a trouvé une place, j'ose espérer, confortable, peut-être émotionnellement, ou voilà, enfin, j'ai pas le sentiment qu'il y ait énormément de frustration, si ce n'est chez le petit, qui aime beaucoup son papa plus que le cadet, du coup, et qui a, lui, à mon avis, tout un bagage à réviser, à savoir vraiment où est-ce qu'il veut aller, parce qu'on est... C'est celui avec lequel on n'a plus, justement, de conflits, d'affection, de loyauté, et il a, lui, des combats émotionnels bien plus forts que les deux autres. C'est marrant, d'ailleurs. Alors que c'est le plus petit, quoi. Donc c'est pour lui le plus difficile, voilà. C'est pour le petit dernier. Il est très dur, il est super paumé, quoi. C'est comme n'importe qui, il fait plein de bêtises, c'est pour attirer l'attention, donc on est plus présent. Et le fait qu'il y ait le grand qui s'émancipe et le cadet qui cherche aussi une voie un peu d'études, beaucoup plus consacrée à un avenir professionnel. Donc ça, à mon avis, ça va nous permettre d'être plus sur le petit dernier. Voilà, ça passe par plein de trucs, quoi. C'est plein de petits détails, mais voilà. Ça évolue sans arrêt, hein. C'est pas qu'un peu, quoi. Parce que je vis avec mes parents, moi. C'est très particulier. Comme je travaille avec eux, et voilà, on habite tous dans la même ville, ce qu'il y a d'original, c'est que ce soit l'un ou ma mère, tous les deux sont des enfants uniques. Voilà, c'est les deux seuls que je connais comme enfants uniques et qui ont une telle envie de, comment dirais-je, générer un troupeau d'humains autour d'eux. Et moi, du fait que je travaille énormément avec eux, il y a eu toute une partie de temps où je voyais pas mes parents le week-end, puisque je les voyais déjà... la semaine et inversement, j'ai été moi ravi que Alain et ma mère se marient, quoi. C'était la meilleure nouvelle. Moi, j'ai beaucoup souffert de la séparation de mon père et de ma mère. Souffert dans le sens où c'est pas l'acte. Je m'y attendais pas, quoi. C'est ça qui est dur. Quand t'as des parents qui s'insultent et tout, c'est dur. Comme ça a rebondi et c'était une vraie surprise pour moi de voir Alain, en fait. Hein. Je m'y attendais pas trop, je pense. Et bah du coup ça m'a rassuré. Ça c'est entre 14 et 18 ans. C'est ça aussi qui m'a beaucoup sauvé moi par rapport à un divorce. C'est très nocif pour des gamins. Vraiment, on se rend pas compte en fait. C'est les adultes qui manipulent les gamins. C'est ce qui m'a toujours le plus bouleversé. Donc c'est pour ça qu'on a pris les gamins à 100%. On n'est pas des illuminés, on n'a pas la stricte vérité. Non, on a vraiment fait bien. En face c'était pourri. Donc c'était un choix. Soit on avait une vie de petit couple, en ne voyant les enfants que tous les 15 jours, et peut-être que les remords ne nous auraient pas bouffé de l'intérieur. Soit on prenait le taureau par les cornes, et c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'il faut faire, quoi. Faut vraiment, pour les gamins, faut le faire, pour nous, pour se regarder dans la glace, je sais pas. Moi, je voir mon gamin tous les 15 jours et tout, j'aurais pas supporté, quoi. Autrement, je fais pas d'enfant, enfin, je sais pas. Ça aurait été pas possible. Mais ça tourne, hein. Ça tourne. Après, c'est pas facile, hein. Par exemple, quand Lucas revenait d'un week-end chez sa mère, ça allait pas, en fait. Ça allait pas pendant 2 jours. Et puis après, ça allait. En fait, c'est les mômes qui se posent des questions et qui remettent en question l'autorité, justement, du parent chez qui ils sont au moment où ils sont là. Et ils entendent, en plus, des choses pas possibles sur l'autre. C'est terrible, hein. Mais bon. Et c'est des pauvres petits pions, il faut essayer de les protéger d'une manière ou d'une autre. Mais bon, moi, je ne me suis jamais trop senti, comment dirais-je, exclu par la mère de Lucas, dans le sens où je me suis démerdé pour que mon gamin ait besoin de moi, tu vois. J'ai monté un stratagème pour le récupérer, je l'ai mis au sport comme un taré, elle ne pouvait pas suivre, et lui ne pouvait plus se passer de moi, et moi non plus, c'est comme ça qu'on l'a récupéré. Mais j'ai mis longtemps. Je l'ai récupéré à 12 ans. C'était très long, très très long. Pour en revenir là, à ces histoires d'émotions et du tout petit, c'est un problème. Entre les enfants et les parents, il y a un vrai problème de chantage affectif. Ouais. C'est vraiment là-dessus que je me bats avec Tamara. C'est qu'elle est victime du chantage affectif du petit, quoi. Un truc de fou, quoi. Il ne peut pas s'en empêcher. Il le fait vraiment... Mais il le fait naturellement. Mais moi, je pense qu'il est très conditionné pour des tas de raisons. Mais il est trop conditionné pour faire ça. Et donc, moi, je mets un point d'honneur à casser ça en le montrant, en découvrant le côté horrible du truc, quoi. Et en disant, mais là, ça se fait pas, quoi. C'est juste pas possible de faire un truc pareil.
Julie, la construction de la nouvelle famille... Comme tu le disais, on peut parler de reconstruction ou de construction. Et je pense que les deux doivent être distincts. Qu'on fasse une nouvelle construction ou une reconstruction, ça va beaucoup dépendre de comment a eu lieu la destruction de la précédente, de l'ampleur de l'échec, de la difficulté de la séparation, de « ne nous voilons pas la face, est-ce que moi, nouveau parent, je suis responsable de cette séparation ?» Parce que c'est forcément très différent. Moi, j'ai eu la chance de ne pas être dans ce schéma-là. J'ai rencontré ma belle-fille Thelma, ses parents étaient déjà séparés depuis plus d'un an et demi, divorcés depuis plus de 6 mois, enfin au sens légal. Donc, il n'y avait pas de difficulté, je n'étais pas l'artisane d'une destruction ou quoi que ce soit. Pour moi, la difficulté de dire reconstruction, je pense que, là encore, je ne suis pas psy, je pense que la reconstruction pour le bel enfant, ce serait de voir ses deux parents se remettre ensemble. C'est la seule reconstruction qui pourrait s'appeler reconstruction à ses yeux. Nous, on a construit une nouvelle famille, donc sur de nouvelles bases. Coup de chance pour nous, la maman de ma belle-fille a construit aussi quelque chose de nouveau, quasi en même temps que nous. Donc tout ça s'est construit de manière parallèle. Et dans les deux cas, il y a eu des nouvelles constructions. Alors peut-être que ça a reconstruit quelque chose aussi entre les deux ex-conjoints, quelque chose de nouveau, parce qu'il y a cette reconstruction-là aussi de dire on s'est aimé, on a fait des enfants ensemble, un ou des, on s'est séparés. Il faut aussi que les deux ex-conjoints ils reconstruisent quelque chose de nouveau pour offrir un nouveau socle à leurs enfants ou à leurs enfants quand il y en a plusieurs, offrir aussi à leur nouveau partenaire quelque chose de sain. C'est pas qu'une construction de couple à deux, c'est extrêmement différent puisque j'ai eu d'autres couples avant, mais sans construction de famille. Donc pareil, j'ai pas là d'éléments de comparaison. Dans mon cas, je ne parlerai pas de reconstruction, mais vraiment de construction différente. Moi, comme n'importe quelle gamine de 16 ans, alors j'en avais 32 hein, quand j'ai rencontré mon mari, mais à 16 ans, je ne rêvais pas d'une famille recomposée. Je pense que comme, enfin, même à 25, comme n'importe quelle gamine occidentale de 25 ans, tu vas rencontrer le prince charmant et puis tu vas faire deux, trois enfants. Tu auras la jolie maison, le joli appart, selon ce dont tu as envie, tout ça. Et puis, un jour, tu tombes amoureuse d'un mec qui a déjà construit une famille avant. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu t'empêches de tomber amoureuse parce que tu dis « Waouh, c'est super nouveau, j'ai jamais appris ça. » Encore une fois, pour moi, c'est différent. Moi, j'avais une maman. Moi, j'ai une demi-sœur de 10 ans, mon aînée. Donc, j'ai vu de toute façon ma maman être belle-mère, même si je ne m'en rendais pas compte à ce moment-là. Je pense que très vite, quand j'ai rencontré mon mari, tout d'un coup, j'ai repris ça un peu à 180 degrés dans le visage en me disant « Ah oui !» Donc, tout ce que j'ai pu entendre comme échange entre papa et maman sur ma demi-sœur, comme tous les échanges que j'ai pu moi-même avoir avec ma demi-sœur sur sa relation avec ma maman et avec notre papa, waouh, je vais être au milieu d'un truc comme ça. Et puis finalement, à un moment, t'es tombée amoureuse du mec et donc ça se fait tout seul. Mais là, ça ne concerne que moi. Comme ma belle-fille n'avait que 3 ans et demi quand on s'est rencontrés, ça ne complique pas les choses. C'est simple d'aimer un enfant de 3 ans et demi. C'est très simple de l'introduire dans ta vie, de t'introduire dans la sienne. Quand, en plus, ce qui a été notre cas aussi, tu as une construction qui se passe facilement parce que la conjointe précédente ne fait pas en sorte que ça se passe mal. C'est tout naturel, ça se construit tout naturellement. Il y a un amour qui se construit au fur et à mesure. En même temps que tu construis ton couple, tu construis aussi cette nouvelle parentalité pour le papa qui reconstruit sa vie et belle parentalité pour la belle-maman que j'étais en train de devenir. Les choses se sont faites très simplement, mais c'est vrai, très nouvelle. Et puis finalement, t'as pas tant de copines que ça qui l'ont vécu avant toi. Surtout, t'as l'impression que c'était hyper facile chez les autres. Enfin, moi, j'ai pas forcément osé poser beaucoup de questions. Il n'y a pas un énorme bagage, il n'y a pas tant de littérature que ça non plus sur le sujet. La chose à éviter, c'est de se prendre pour le parent dont tu es du même genre. Moi, en l'occurrence, je suis une belle maman. Je ne me prends pas pour la maman de ma belle-fille. J'ai le même attachement pour elle, je crois sincèrement, que celui que j'ai pour mon fils. Là, on ne parle pas d'amour inconditionnel, bien d'attachement. Je suis autant attachée à elle et je me battrai comme une lionne, comme si ça avait été ma fille. Tu vois, la question ne s'est pas posée. C'est ma fille, quoi. Elle n'a pas, ok, elle n'est pas sortie de mes entrailles, mais ça va peut-être paraître un peu incohérent ce que je dis. Mais c'est ma fille, mais pour autant, je ne suis pas sa mère. Moi, je dois me comporter avec elle comme si elle était ma fille parce qu'elle n'a pas demandé cette situation. Je pense qu'elle serait très heureuse que son papa et sa maman soient toujours ensemble. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas moi, sa belle-mère, et qu'elle n'aime pas son beau-père. Mais je veux dire, c'est quand même souvent idéal le couple qui reste ensemble quand ils s'entendent bien, évidemment. Mais vraiment, voilà, moi, j'agis avec elle comme si elle était ma fille. Je la protège comme si elle était ma fille, mais je ne suis pas sa mère. Et ça, c'est très clair dans sa tête, dans la mienne, dans celle de tous ceux qui nous entourent. Ne pas prendre la place de quelqu'un d'autre, surtout quand cette personne, ce qui est notre cas, est là, n'est pas défaillante. Après, quand tu as des parents défaillants, pourquoi pas? Et encore, ça se discute, mais on n'est pas là pour discuter de ça. Moi, ce n'est pas mon cas. Donc, je n'avais pas de quelqu'un à remplacer. Et puis, un truc, moi, j'ai rencontré quelques personnes dans ma vie comme ça qui me disaient « Mais comment elle t'appelle ? T'es tata Julie, maman Julie ?» Non, je suis Julie. Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris dans certaines familles recomposées. Alors, j'en connais pas énormes qui font ça, mais de donner une espèce de surnom. Non, en fait, j'ai un prénom et il est très bien comme ça. Et puis, de vouloir forcer les choses. Je pense que le truc à faire, du coup, c'est faut laisser faire les choses. Pas se culpabiliser quand on fait les choses mal, parce qu'on en fera aussi mal de toute façon avec nos enfants. Accepter qu'on est imparfait. Accepter aussi que nos beaux enfants, eux aussi, sont imparfaits dans leur rôle de bel enfant, parce qu'ils l'ont encore moins demandé que nous. Et puis oui, accepter que les choses se fassent naturellement. De toute façon, clairement, le socle de base de la nouvelle construction, c'est quand même la séparation précédente. C'est quand même l'élément fondateur. L'élément fondateur de ton couple, quand t'es beau-parent, c'est pas ton couple, hein, c'est la séparation du couple précédent. Donc, si tu dois construire sur un champ de ruines où il y a encore des braises ardentes, forcément, tous les sujets vont être difficiles. Le choix des vêtements, la garde alternée. Donc, c'est juste ces petits réglages de logistique qui tendent à disparaître quand ils sont plus grands parce qu'ils se gèrent un peu plus tout seuls. Donc, bon, il y a d'autres sujets qui sont... Il y a des sujets d'éducation du coup un peu plus grands sur les heures de sortie, enfin, un petit peu plus essentiels qui viennent. Mais en revanche, on y gagne beaucoup en termes de logistique quand ils grandissent parce qu'ils se gèrent eux-mêmes. Ça, c'est pas mal.
Hugues. Nous, on a des règles de vie à la maison, des règles que les enfants connaissent. Mais une fois de plus, pour moi, c'est des choses qui sont pas vraiment spécifiques à une famille recomposée. C'est vraiment une. J'ai le sentiment, avec les années, avec le nombre d'enfants, parce qu'aujourd'hui on a 3 enfants, que le caractère famille nombreuse a pris le pas sur le caractère famille recomposée. Et donc tout ce qu'on met en place, toutes les règles, j'ai le sentiment qu'elles sont plus imposées par le nombre de ces enfants que par le fait qu'ils soient pas issus du même père. Quand je parlais justement de l'arrivée des 2 sœurs. Que j'avais le sentiment que c'était une bonne chose pour Aloïs parce que ça l'aidait justement à s'intégrer dans cette fratrie. Je pense que le contexte n'aurait pas été forcément le même si on avait eu, par exemple, que 2 enfants. Où là, vraiment, il peut y avoir ce jeu de face à face. Donc, pour moi, je pense que ça contribue, ça l'aide à s'intégrer dans la famille. Et au fur et à mesure, en fait, nos règles de vie, nos modes de vie sont beaucoup plus imprégnés par le caractère famille nombreuse que par le caractère famille recomposée. Oui, on peut reconstruire. Pour moi, c'est pas impossible, mais une fois de plus, ça dépend beaucoup du contexte, de l'âge à laquelle on rencontre ses beaux enfants, de l'histoire qu'il y a eu justement dans la famille précédente, de la volonté qu'il y a au niveau des 2 parents. Donc voilà, nous, ça s'est pas fait non plus sans accroc. Ça a été assez compliqué. Et donc c'est pour ça que c'est important, à mon sens, pour les 2 parents d'être d'autant plus raccord sur d'autres sujets. Parce que clairement, une famille recomposée, ça crée quand même une ligne de fracture supplémentaire au sein de la famille. Il y en a dans toutes les familles, mais là c'est quand même un facteur supplémentaire. Donc il faut consolider, il faut s'appuyer sur d'autres bases. Pour moi, il y en a deux outils essentiels. Enfin, je ne sais pas si c'est des outils ou des méthodes ou des attitudes. Hein. C'est être systématiquement solidaire entre les 2 parents vis-à-vis des enfants. Parce que je pense que dans toutes les familles, les enfants ont tendance à s'engouffrer dans les brèches ou les failles qu'il peut y avoir entre le père et la mère. Ça peut être d'autant plus vrai dans une famille recomposée et s'efforcer de traiter tous les enfants de la même manière. Ne pas faire de distinguo justement dans le traitement entre celui qui est issu de la famille recomposée et puis ceux qui sont issus des 2 parents. Pour moi, ça c'est fondamental. Alors, je pense que ce qui aurait pu être très destructeur, c'est quand Aloïs a été, par exemple, très dur avec moi, si Sophie s'était désolidarisée de moi, si elle avait commencé à rentrer dans son jeu, à dire oui, mais c'est vrai, il faut le comprendre, il est, voilà, son papa n'est pas là, il vit pas avec son papa. Alors ça aurait été, je pense que ça aurait été assez destructeur pour Aloïs. C'est sûr que ça peut être très compliqué et de toute façon, moi, à titre personnel, j'aurais mal vécu parce qu'effectivement, tous ces efforts-là, je les fais aussi quelque part un peu pour Sophie. Hein. Donc, c'est sûr que si dans ces moments-là, elle me soutenait pas, j'aurais trouvé ça assez dur à avaler. Alors, le confinement a eu des répercussions. Je pense que, comme toutes les familles, la particularité, là, au niveau, justement, de la famille recomposée, c'est que Aloïs n'a pas vu son père pendant des mois. Et ce qui, pour le coup, a contribué à stabiliser un peu la situation, parce que, comme je le disais, ben, pour lui, passer d'être avec son père, avec nous, c'était forcément, et c'est normal, je pense, un petit côté déstabilisant. Donc pour le coup, on s'est retrouvé et on a trouvé un mode de vie et de fonctionnement à un rythme qui était assez nominal et qui nous convenait. Surtout qu'en plus, moi, j'étais là. Donc en fait, on était tous ensemble. Je pense qu'on a connu un peu une période de vie médiévale parce que c'est vrai que ça fait longtemps que les familles ne vivent plus ensemble pendant des semaines et des semaines hein, puisque les enfants sont à l'école, les 2 parents travaillent. Et donc là, on était tous ensemble. Donc je pense que c'était voilà, une expérience un peu archaïque.
Catherine. Pour moi, il n'y a pas de différence à faire entre les enfants, les petits-enfants et les beaux-enfants et beaux-petits-enfants. On a un lien, je dirais pas originel, mais même si ça ne nous plaît pas d'en avoir, c'est comme ça. Mais le lien n'est pas obligatoirement parallèle ni réciproque. Un jour, Aline m'avait dit « mais t'es pas ma mère ». Je lui ai dit « je te remercie, je le sais ». Mais c'est une parole que ne dirait pas un enfant. Ils peuvent nous dire « je préférerais avoir une autre mère, mais je ne suis pas ta mère, enfin tu n'es pas ma mère ». C'est aussi une façon de, le bel enfant qui dit ça, de se retirer un petit peu, volontairement ou involontairement, du contexte familial, peut en chasser un petit peu l'autre aussi. Éventuellement, il n'y a pas de renforcement du lien. Et ça, je crois que si l'une des deux parties n'a pas envie de renforcement du lien, il ne se fera pas. Il ne se fera pas parce que même si l'autre y emploie beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et tout, si le, peu importe lequel des deux, n'en veut pas, ça ne se fera pas.
Maëva.
Je pense que les erreurs dans la belle parentalité, c'est de vouloir mettre les gens dans des cases. On m'a répété très souvent, mais Jeanne, c'est ta demi-sœur et Mathieu, c'est ton demi-frère. Et je lui dis, bah, toi, t'es un demi-con, parce que non, en fait. J'ai des souvenirs avec Manon que j'aurais jamais avec Jeanne et Mathieu, parce que Manon et moi, on a la même maman et qu'on a été trimballés de foyer en foyer ensemble, on le sait. En même temps, j'ai construit une relation avec Jeanne et Mathieu que j'aurais jamais avec Manon. Parce que j'ai été leur nounou pendant un an, parce qu'on a 10 et 15 ans d'écart, parce que j'ai appris de mes erreurs de grande sœur avec Manon, avec mes petits frères et sœurs. En fait, aujourd'hui, les familles recomposées, les divorces, les belles mamans, les belles filles, les beaux papas, les beaux grands-parents, c'est très compliqué, c'est extrêmement compliqué. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'amour en même temps, il y a beaucoup d'erreurs. Et je pense qu'en fait, si on ne se simplifie pas la vie, on ne va pas simplifier les relations. C'est déjà assez complexe comme ça sur le papier. Donc, je pense qu'il faut vraiment y aller au feeling. C'est laisser glisser, y aller au feeling et se dire que bah, ce n'est pas parce qu'on veut quelque chose que ça va forcément arriver, parce que la personne en face, elle n'est pas peut-être prête à te donner ces choses-là, elle ne veut peut-être pas les mêmes choses, que ta relation, de toute façon, elle va évoluer. Les relations ne sont jamais acquises, mais ça n'a rien à voir avec les liens du sang. Ce sont les relations, toutes sortes de relations. Et donc, si on ne se simplifie pas le truc, si on évite d'être dans le jugement déjà et qu'on est plus dans la compassion, je pense que déjà on s'enlève une bonne épine du pied, quoi. Alors au niveau des conflits de loyauté, pour moi c'est le plus gros problème de la belle parentalité, parce que j'ai vraiment beaucoup de souvenirs de beaucoup d'amour et beaucoup de chance dans mon schéma familial. En revanche, effectivement, le conflit de loyauté, je l'ai beaucoup ressenti et j'étais trop petite et c'était pas juste. Ma petite sœur, donc Jeanne, qui est le premier enfant de mon père et Karine, est née quand j'avais 10 ans et ma sœur Manon 8 ans. Chez mon père et ma belle-mère, il y avait un schéma familial qui peut-être, en tant qu'enfant, avec Manon, nous attirait un petit peu plus, tout simplement parce qu'ils avaient plus le temps de s'occuper de nous, ils prenaient plus le temps de s'occuper de nous. Je sais pas, je jette la pierre à personne. Mais en tout cas, voilà, on était plus attirés. Et je pense que quand Jeanne est née, c'est devenu essentiel de vivre avec ma sœur. D'être avec ma sœur, j'avais envie d'être avec elle, encore plus dans ce schéma-là. Bah, nous, on venait un week-end sur deux, et quand on arrivait le vendredi soir, bah, Jeanne, elle boudait, parce qu'on l'avait abandonnée deux semaines. Et donc le samedi, elle commençait à nous pardonner, on jouait ensemble. Et puis le dimanche soir, elle savait qu'on repartait le lendemain, donc elle se remettait à pleurer. Et c'était un déchirement de repartir tous les dimanches soirs et de voir ma sœur pleurer, quoi, ce petit bout de chou de un an qui pleure, alors qu'on s'était éclaté tout le week-end, c'était notre poupée, c'est méchant, mais on s'en occupait à fond, quoi. On jouait tout le temps, on se déguisait, on faisait les folles, c'était génial, quoi. Et c'était horrible de la laisser comme ça le dimanche soir. Et en même temps, je me rappelle que pendant au moins bien 2 ans, très honnêtement, sans exagération, je pense être très lucide sur ces sujets-là, et j'en ai reparlé avec Karine, donc je sais que je n'ai pas tort, j'ai dit à ma mère de très nombreuses fois que je voulais partir chez mon papa et vivre avec Karine et mon père et Jeanne. Et en fait, ma mère pleurait à chaque fois. Elle ne l'a jamais fait devant moi pour que je le voie et que je culpabilise. Ça n'a jamais été vraiment volontaire et méchant de la part de ma mère. Et donc, elle n'a jamais fait ça de manière égoïste, à se mettre à pleurer devant moi en caprice pour me faire culpabiliser. C'était absolument pas volontaire de sa part. Mais je voyais que quand je lui disais, les larmes montaient. C'est quelqu'un qui ne parle pas trop de ses émotions. Ce n'est pas une personne extrêmement tendre dans sa façon d'être. Ça ne veut pas dire qu'elle est brutale, mais c'est quelqu'un de très réservé, en fait. Et donc, de voir ma mère qui finalement me disait pas trop « je t'aime », qui me faisait pas de câlin, et qui d'un coup se mettait à être envahie par une émotion qu'elle contrôlait pas, parce qu'en fait, elle m'aimait. Moi, en tant qu'enfant, j'avais paradoxalement une culpabilité énorme, et en même temps, j'avais tellement d'amour de ma mère d'un coup, que je me disais « ah bah elle m'aime, en fait, c'est cool ». Et je pouvais pas la quitter. Je pouvais pas la quitter, je me disais « mais je peux pas laisser ma maman, en fait, c'est pas possible, ça lui fait de la peine, je lui fais de la peine, c'est pas possible ». Du coup, j'avais cette culpabilité de dire « si je pars, ma maman va souffrir ». Si je pars pas, Jeanne, elle va souffrir. Et moi, je vais pas forcément avoir la meilleure vie au quotidien, celle qui m'attire le plus en ce moment, quoi. Et donc, du coup, ça m'a mis dans une situation compliquée parce qu'il fallait que je choisisse. Et bah, à 12 ans, on devrait pas avoir à choisir entre bah, vivre avec son père ou vivre avec sa mère. Ou finalement, moi, je me disais quoi, ça va... Si je pars chez mon père, ça veut dire que ma mère, elle va croire que je l'aime plus. Enfin, c'était horrible. Moi, je pouvais pas. Je me suis dit, mais ma mère, il faut qu'elle sache que je l'aime. En fait, c'est pas possible. Et donc, en fait, on m'a demandé de choisir. Et j'aurais, aujourd'hui, en tant qu'adulte, en ayant le recul, je me dis, bah, pourquoi jamais on a eu une vraie discussion tous ensemble, c'est-à-dire mon père, À la limite, pas forcément mes belles-mères, mais pourquoi mon père, ma mère et moi, on s'est pas posé tous les trois au moins pour avoir cette discussion et se dire bah Maëva, on va trouver une solution, quoi. Quitte à me dire, bon, j'aurais compris en plus, au moins m'écouter, me laisser parler, me laisser dire que j'en souffrais, parce que du coup, on m'a juste dit d'un côté, bah viens vivre avec nous, c'est super cool, et puis de l'autre, oui, bah tu peux aller chez ton père, mais je, voilà, je pleure, je vais être pas bien. Et du coup, j'ai jamais eu de discussion ouverte sur le sujet où on s'est posé pour me dire, et toi, tu te sens comment, quoi? Toi, c'est t'inquiète. C'est pas grave. Et ça, ouais, c'était difficile. Parce qu'en plus, ça a duré plusieurs années et j'en ai vraiment, vraiment culpabilisé, quoi. C'est dur, les conflits de loyauté, c'est trop dur pour un enfant. C'est beaucoup à mettre sur ses épaules. Karine, quand elle est arrivée, en fait, je me rappelle pas, mais elle dit faut l'accepter. C'est la nénette de ton papa, donc tu vas l'accepter. En fait, je me rappelle juste que Karine, elle était là, quoi. Elle était là et ma maman lui a laissé la place d'être là. Donc, à partir de là, je pense que si les adultes sont assez intelligents, les enfants, ce n'est pas les plus difficiles à convaincre. Enfin, je ne connais pas tous les enfants, mais un enfant ne met pas des cases partout. Un enfant, il ne met pas les gens dans des box où il ne se dit pas « Ah oui, mais si je l'aime machin, je vais aimer moins machin. » Non, quand tu as 5 ans, tu ne te poses pas la question de se dire « Si j'aime Karine, ma mère, elle croit que je l'aime plus. » Franchement, c'était trop compliqué pour moi, le débat. Hein. Enfin, en tout cas, moi, dans mon cas, j'étais peut-être simplette, mais je ne me suis pas posé la question. Et non, j'ai juste aimé Karine. J'ai juste aimé Karine, et Karine m'aimait, point. Et Karine a toujours été là dans ma vie, Karine m'a toujours accompagnée. Elle a été là sur des sujets où ma maman n'était pas là. Pas parce que ma maman était moins bien que Karine, parce que ma maman, elle n'était pas équipée pour être là sur ces sujets-là, parce que moi, j'avais besoin que quelqu'un soit là, parce que je n'étais pas comme ma mère, parce que je n'étais pas comme ma sœur, et point. Et je sais que ma sœur ressent la même chose vis-à-vis de Karine. Ses enfants, Jeanne et Mathieu, n'ont jamais... pensées n'ont jamais émis le fait qu'elle s'occupait trop de nous ou qu'on n'était pas ses vraies filles. Il n'y a jamais, mais jamais eu de discours comme ça. Tout simplement parce que déjà, mes parents ne l'accepteraient pas, ne l'auraient pas accepté. Ils l'ont toujours dit, vous êtes pas, on ne vous aime pas moins l'un que l'autre, vous êtes tous à égalité. Point. Et c'était très bien pour nous, parce que de toute façon, on s'aimait bien, quoi. Après, un de mes frères et sœurs aurait été un petit con, je ne sais pas comment j'aurais réagi, mais non, c'était cool. Je ne sais pas, j'avais un besoin de créer un truc avec ma mère, qui du coup faisait partie du inconditionnel physique. Elle m'a porté dans son ventre, je pense, un truc, le truc un peu spirituel, magique, que tu peux pas expliquer, où tu t'en prends plein la gueule, mais tu y retournes. Mais Karine, elle était là en backup. Et donc, à chaque fois que je tombais, elle était là. Et Karine, ça a été ça, quoi. C'est-à-dire que peu importe ce qui pouvait m'arriver dans la vie, mais alors elle traversait de l'Atlantique pour venir me chercher. Il n'y avait pas de problème, quoi. Aujourd'hui, Karine et mon père divorcent. Donc, c'est une procédure qui... Enfin, ça a commencé, on l'a appris... à Noël dernier, quel joyeux Noël. Et autant au début, sur le coup, ça te tombe un peu dessus. Moi, oui, j'avais quoi, 29 ou 30 ans. Et tu te dis, bah, waouh, ok, ça implose. Et c'est marrant parce que j'ai toujours grandi en tant que fille de divorcée. Donc je me suis dit, bon, bah, t'es rodée. Bah non, pas du tout. Et j'ai beau avoir 30 ans, tu te dis, bon, ça fait un peu mal quand même quand ça te tombe sur le coin du nez. Ça fait beaucoup de mal aussi parce que, comme je vous le disais, j'ai deux sœurs, une sœur, même maman, et une sœur qui a 10 ans de moins que moi et un demi-frère qui a 15 ans de moins que moi. Mais il n'y a pas de demi-frère, demi-sœur. Je fais aucune différence. On n'a juste pas les mêmes souvenirs parce qu'ils ne partagent pas des souvenirs d'enfance que j'ai avec Manon sur notre mère. Mais sinon, voilà, ce sont mes frères et sœurs. Et ils sont plus petits. Quand eux, je les ai vus se le prendre dans la tronche, c'était plus compliqué parce que moi, je ne vivais plus avec mes parents. À 30 ans, heureusement, j'ai envie de dire. Mais eux vivaient encore avec. Et du coup, c'était super compliqué de les voir se prendre ça dans la tronche, de voir mes parents malheureux parce que du coup, bah, Karine et mon père étaient super malheureux. Et donc ça, c'est difficile à vivre. Après, dans ma relation avec Karine, ce qui a été compliqué, et j'aurais jamais cru que ça puisse arriver, c'est qu'en fait, il y a très peu de temps, il y a une semaine d'ailleurs, on se voit, donc je vais dormir chez elle et dîner chez elle. Et en fait, on parle d'un sujet qui m'a un peu surprise. Elle avait parlé à mon autre sœur Manon, qui n'est pas sa fille biologique. Elle lui avait dit qu'elle avait un peu peur que le divorce de mon père, avec elle, nous éloigne d'elle. Parce que, et elle a cité, je cite ma sœur, les liens du sang sont plus forts. Et donc, quand je suis allée voir Karine, j'ai eu cette conversation avec elle et je me suis dit, mais comment c'est possible qu'après 26 ans, tu puisses me sortir ça, quoi? Ça veut dire que notre relation, ce qu'on a construit, toi et moi, ça dépend du bout de papier que tu as signé avec mon père, ça dépend de ton mariage avec mon père. Je dis, parce que moi, non, en fait. Moi, ma relation avec toi, elle n'a rien à voir avec le fait que tu étais avec mon père. Alors certes, on s'est rencontrés comme ça, et certes, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu fais partie de ma vie et tu es ma mère. Mais comment c'est possible que tu puisses avoir ce doute? Et ça m'a mis en colère. Ça m'a mis vachement en colère. Parce que je me suis dit, enfin, cet amour, il, enfin, je ne comprends même pas qu'on puisse vérifier l'authenticité, quoi. C'est... Donc quoi, je suis encore en train d'être jugée sur mon affection pour toi. Sur le coup, ça, c'est ce que j'ai pensé très fort, en me disant, mais n'importe quoi, c'est complètement lunaire, ton affaire. Mais en tant qu'adulte, j'ai juste vu une femme en détresse qui avait besoin d'être rassurée. Et donc, je lui ai juste rappelé pourquoi jamais de la vie, ça arriverait. Tout simplement parce que bah, c'est ma mère. Alors, certes, elle ne m'a pas mis au monde. Certes, il n'y a pas ce lien physique où elle m'a portée dans son ventre pendant 9 mois. Mais moi, je ne me rappelle pas de la vie sans elle. Je ne me rappelle pas de la vie sans elle. Je ne me rappelle pas avoir vécu une peine, pleurer sans qu'elle soit là. Je ne me rappelle pas avoir eu un nouvel amoureux et lui dire, et ne pas lui dire, parce que du coup, elle a toujours été là. Je ne me rappelle pas. Enfin, Karine, c'est la personne avec qui je me confiais le plus. Et je ne me confiais pas le plus à elle parce que c'était ma meilleure amie, parce que ça, à la limite, j'avais une tante pour ça. Mais je me confiais à elle parce que c'était ma maman. Et ça n'empêche pas que j'aimais énormément ma vraie maman et que ça ne lui a jamais enlevé son pied de maman. J'avais de l'amour pour les deux, mais je n'avais pas la même relation avec les deux. Mon père s'est récemment remis avec une femme qui est très sympathique, hein, aucun problème. Et en fait, c'est juste que mon papa a tellement souffert dans sa séparation qu'à un moment donné... En fait, mon père, c'est quelqu'un qui s'est toujours oublié pour ses enfants. J'ai jamais questionné mon père en tant que papa. J'ai littéralement le meilleur papa du monde, vraiment. C'est-à-dire que mon père, il me dit « saute d'un pont », je sais que si je saute, c'est qu'il a évalué toutes les situations possibles et que même si ça me paraît bizarre, c'est la meilleure pour moi, quoi. Et donc, tout le temps, on lui a dit « mais papa, pense à toi ». Et ben, je pense qu'il l'a pris très au pied de la lettre parce que du coup, il a rencontré cette nouvelle femme. Et l'année dernière, donc on se retrouve à la plage, elle arrive... un peu à la plage, mon père l'a un peu imposé, il en avait un peu parlé, et pourtant les enfants, les deux petits étaient assez froids à l'idée, voilà, j'entends. Manon aussi, un peu froide, moi je t'avoue que je suis un peu plus souple, non pas que, voilà, j'étais pas hyper joyeuse du divorce et du fait qu'il rencontre quelqu'un d'autre, mais bon, c'est la vie quoi, je suis adulte, j'ai 30 ans, je sais comment ça marche, ça arrive, et je veux que mon père soit heureux, point. Mais du coup, cette nénette arrive à la plage, et elle pose sa serviette à côté de ma plus jeune sœur, Jeanne. Et là, je vois Jeanne, qui a un culot admirable, moi j'adore, qui se lève, qui prend sa serviette et qui va se mettre de l'autre côté de la ligne de mon frère, mes sœurs et tout, mais vraiment à l'opposé de la nana. Et sur le coup, je me suis sentie tellement mal pour cette femme qui est vraiment très sympa et qui a toujours été hyper joviale et qui comprend très bien. Je trouve qu'elle a géré ça avec classe, mais d'un autre côté, j'étais morte de rire. Je me suis dit, mais... incroyable, ma sœur, j'étais pliée de rire, on en a rigolé pendant des jours. C'était trop compliqué, mon père, il était heureux, donc je comprends qu'il avait envie de tout mélanger, mais pour les enfants, c'était trop et trop vite. Et ils n'ont pas réussi à gérer le truc, et en même temps, la nana, bah, elle a géré, quoi. Parce que mon père l'a imposé, donc je pense qu'elle était très contente aussi, mais quand ma sœur a réagi comme ça, elle aurait pu s'offusquer en disant « bah ta fille, c'est une petite conne » ou... Non, en fait, elle a compris, elle a dit « bon, bah je vais tenter » et elle est venue en connaissance de cause en se disant « bah moi, je sais ». Et donc, en fait, elle a assumé le fait que ça puisse arriver et elle a laissé le temps à ma sœur. Là-dessus, elle a bien joué. Parce que c'est un sujet compliqué. Parce que ma belle-mère, de l'autre côté, c'est pas facile, quoi. Quand tu sais que la nana, elle était là, c'est compliqué parce qu'on est tous des êtres humains avec des sentiments et le fait que, voilà, déjà, on soit pas dans le jugement, et dans la compassion et dans le laisser couler, ça aide.
Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le partout et parlez-en autour de vous. Un chouette commentaire et vos 5 bonnes étoiles sur Apple Podcasts seront toujours les bienvenus. Si vous souhaitez participer à ce drôle de labo, continuer l'aventure et faire avancer l'enquête, n'hésitez pas à me le proposer sur nos réseaux sociaux. Alors, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de La Belle Parentalité et tentez de choper ensemble ces petites clés.